Très bon début de soirée à toutes et à tous. Vous écoutez Radio, il est 21h passé de quelques secondes. Votre émission littéraire est de retour sur les ondes. C'est en effet Wagon Livre et nous sommes ensemble jusqu'à 22h. 350e émission ce mercredi 4 juillet, au cours de laquelle nous allons vous proposer un compte-rendu du 2e Salon du Livre d'Auteur organisé le 17 juin dernier par le Lions Club Centre-Est à l'Orangerie du Château d'Ancy-le-Franc dans le Tonnerrois. Romancier et nouvelliste, Jean-Pierre Canet en était le parrain, tandis que Pascal Pujol, prix national de littérature Lyons 2017, en était l'invité d'honneur. Pascal Pujol, que vous avez pu entendre mercredi dernier dans Wagon Livre, pour évoquer son premier roman, intitulé « Petit plat de résistance », un roman disponible aux éditions du Dilettante et également aux livres de poche. Alors au programme de notre rendez-vous, un reportage avec Françoise Landreau pour son roman « Un pays sans amarres », disponible aux éditions des Béatitudes. Ce roman a obtenu cette année le prix Lyons Centre-Est, un roman dont l'intrigue repose sur une histoire vraie qui est arrivée à une famille autunoise quelques années avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Sujet un peu plus léger au menu de votre émission littéraire avec Régine Tessot qui signe aux éditions Erol 140 recettes érotiques, amour, cuisine et volupté. Vous en saurez un petit peu plus pour cuisiner aphrodisiaque cet été. Un roman historique avec Jean-François Zimmermann, un roman qui nous ramène au moment de la Fronde, en plein cœur du XVIIe siècle. Le roman de Jean-François Zimmermann a pour titre « Rendez-vous au Pré au Clair » et il est disponible aux éditions de Borée. Enfin, nous vous proposerons une petite rencontre tonique et sympathique avec Laurence Gau, qui est l'auteur de plusieurs romans pour le jeune public, mais également de romans pour adultes. En tout cas, c'est Wagon Livre. Très bon début de soirée à toutes et à tous. On marque une première pause musicale et on se retrouve juste après.
Serre ton bonheur quand il vient. Écoute les murmures et les lents dessins du fleuve rouge et mauve qui coule en nos seins. Ses dangers, ses ravins. Pleure la lumière quand elle meurt, puis hurle sous la lune comme ça l'air de rien, devant la nuit immense et jusqu'au matin, va toucher le lointain. Au-dessus de nous, dedans et tout autour, le miracle est partout, mon amour. Pourras-tu le voir? Au cœur de nos cœurs, au-delà des contours, le miracle est partout, mon amour. C'est à toi de le voir. Terre ta douleur quand elle brille, partage tes envies, tes jeux, tes prodiges. Le long de tes racines, ces voix qui grésillent, va défier tes vertiges. Brûle ton amour quand il brûle, fais feu de tout le bois dont tes bras disposent. Étonne-toi du fond de ta moindre cellule, n'oublie jamais les roses. Au-dessus de nous, dedans et tout autour, le miracle est partout, mon amour. Sauras-tu le voir? Au cœur de nos cœurs, au-delà des contours, le miracle est en nous, mon amour. C'est à toi de le voir. Dans le point du jour, le miracle est en nous, mon amour. C'est à toi de le voir. Le miracle
tu le vois. Le miracle est en nous, mon amour.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Ouvrons, si vous le voulez bien, ce compte-rendu du deuxième salon du livre d'auteur qui s'est tenu à l'orangerie du château d'Ancilfranc le 17 juin dernier avec Françoise Landreau. Françoise Landreau qui a été récompensée puisqu'elle obtient cette année le prix Lyons Centre-Est pour un roman intitulé « Un pays sans amarre », un roman qui est disponible en librairie aux éditions des Béatitudes. Sans plus tarder, Françoise Landreau.
Alors, une petite carte de visite. Je vais vous dire d'abord que j'habite Lyon, la région lyonnaise, mais que je suis née dans le Morvan, près d'Autun. C'est pourquoi la première partie du livre en question se déroule dans l'Autunois. Autrement, j'ai toujours aimé la littérature. J'ai fait des études de lettres à Dijon. Et puis, après, j'ai toujours écrit d'une manière plus ou moins continue. Mais enfin, j'ai écrit pendant des années. J'avais une vingtaine de cahiers. Et puis, je n'avais pas tellement l'intention de publier. Et petit à petit, l'idée a fait son chemin et comme le premier livre a bien marché, j'en ai écrit un second avec un grand bonheur et une grande passion aussi.
Alors, le point de départ de ce roman « Un pays sans amarre », c'est, on pourrait le dire, une histoire vraie qui est revenue à vos oreilles après votre mariage. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Alors, je vais situer très brièvement le roman. Il est vrai que ce roman a des sources multiples, c'est le fruit de mon imagination, mais il est parti d'un fait véridique. Il y a bien eu, un peu avant la Deuxième Guerre mondiale, un jeune homme qui était devenu fou, il avait à peu près 25 ans, et qui a été envoyé en Algérie. Alors la raison avancée, c'était que là-bas, il y avait un hôpital très innovant. Bon, l'Algérie, à cette époque, est française. C'est un département français. C'est pour ça qu'on l'envoie là-bas. Mais en creusant un peu, je me suis aperçue que les raisons étaient beaucoup moins claires et qu'en fait, si on l'envoyait là-bas, c'était pour le gommer de la famille parce que la folie, à cette époque, c'est une tare, c'est une honte pour la famille et c'est quelque chose qu'il faut cacher. Ça peut s'étendre sur des générations. Et voilà, il est parti là-bas. Donc j'ai entendu parler de cette histoire.
Mais les éléments sont flous, vous n'avez pas de source documentaire.
Non, j'ai pas
d'accord.
De source documentaire. J'ai entendu parler de ce jeune homme qu'on avait complètement rayé de la famille bien après sa mort. Et cette histoire m'a paru vraiment très étrange et puis déconcertante. Et j'ai voulu aller au-devant de cette femme, de cette
mère de
Benjamin,
malade.
De ce jeune homme envoyé. J'ai voulu essayer de voir comment, de comprendre comment elle avait pu survivre à cela, comment elle avait pu traverser cela. Et en fait, le roman raconte l'histoire de cette femme. C'est pas tellement l'histoire du fils, bien que la folie soit toujours en filigrane dans le roman, mais c'est l'histoire de cette femme, comment elle va traverser cela et comment, peu à peu, très étrangement, elle va en même temps retrouver l'essentiel de ce qu'elle est.
Un petit mot peut-être sur la maison d'édition qui a accueilli votre roman, les éditions des Béatitudes.
Alors, c'est une petite maison d'édition. Bon, il s'est trouvé qu'un jeune homme de ma connaissance avait fait un stage dans cette maison d'édition qui est située dans l'Orléanais. Et j'ai envoyé mon manuscrit qui, une première fois, a été perdu. Donc, je n'avais pas de réponse. C'était très, très étonnant. Et puis, j'ai retéléphoné ou écrit pour savoir où c'en était. Et ils ont été très contents de m'avoir au bout du fil parce que, en effet, le manuscrit avait été perdu. Ils l'avaient lu, mais ils n'avaient pas mes coordonnées. Donc voilà, c'est quelquefois un roman part d'une façon un peu chaotique, mais bon, il a bien abouti finalement.
Est-ce que vous avez un autre projet en cours d'écriture ?
Alors, j'ai toujours de multiples projets dans la tête parce que. Je n'écris pas seulement avec un stylo et un cahier, mais j'écris tout le temps dans ma tête, je crois. Donc, et puis des textes par-ci, par-là, qui finiront peut-être par faire un roman ou autre chose. Mais enfin, j'ai rien de précis en ce moment, mais j'ai toujours beaucoup de terreau, disons.
À l'instant, un autre micro, Françoise Landreau, prix Lyon Centre-Est 2018 pour son roman « Un pays sans amarre ». Paru aux éditions des Béatitudes. Vous écoutez Radion et vous êtes à bord de Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Nous marquons une nouvelle petite virgule musicale et on se retrouve dans une poignée de minutes.
Sur les trottoirs, je pense à toi. Sur les boulevards, je pense à toi. Dans la nuit noire, je pense à toi, même s'il est tard. Sous les réverbères, je pense à toi. Dans la lumière, je pense à toi. Tous les hémisphères, je pense à toi. Sous la poussière, on était beau, pourtant on accélérait sans frein. On s'aimait trop pour s'aimer bien. On était beau, souvent, quand on souriait pour rien. On s'aimait trop pour s'aimer bien. Je pense à toi, encore sommeil, je pense à toi. Trop de soleil, je pense à toi, c'est plus pareil. En funambule, je pense à toi. On me bouscule, je pense à toi. Si je recule, je pense à toi. Je suis ridicule, on était beau, pourtant on accélérait sans fin. On s'aimait trop pour s'aimer bien. On était beau, souvent, quand on souriait. S'aimer trop pour s'aimer bien. Je suis désolée, je pense à toi. Presque obsédée, je pense à toi. Dépossédée, je pense à toi. Trop fatiguée. Sur toutes les routes, je pense à toi. Si je m'écoute, je pense à toi. L'ombre d'un doute, je pense à toi. Je me dégoûte, on était beau, pourtant on accélérait sans fin. On s'aimait trop pour s'aimer bien. On était beau, souvent, quand on souriait pour rien. On s'aimait trop pour s'aimer bien. J'étouffe, je pense à toi. Quand je découche, je pense à toi. Je perds mon souffle, je pense à toi. Au bord du gouffre. Encore un soir, je pense à toi. J'ai le cafard, je pense à toi. Dans le brouillard, je pense à toi. Je peux pas y croire, on était beau, pourtant on accélérait sans fin. On s'aimait trop pour s'aimer bien. On était beau, souvent, quand on souriait. On s'aimait trop pour s'aimer bien.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Suite de votre émission littéraire ce soir avec le compte-rendu du deuxième salon du livre d'auteur organisé à l'orangerie du château d'Ancy-le-Franc. C'était le 17 juin dernier, un salon du livre organisé par le district Lyons Centre-Est. Nous y avons rencontré Régine Tessot qui est comédienne au théâtre. Elle a aussi été danseuse de claquettes. Elle a tourné pour la télévision, notamment dans la série Les gens de Mogador. Et elle a également fait quelques apparitions au cinéma dans des films comme Les Ripoux ou Monsieur Klein. Elle écrit en collaboration avec le docteur Puget plusieurs livres, dont Mes remèdes de grand-mère, un best-seller édité dans plusieurs pays. Mais nous l'avons rencontrée le 17 juin dernier pour un livre intitulé 140 recettes érotiques, amour, cuisine et volupté. Tout de suite, Régine Tessot à notre micro.
Donc, je suis Régine Tessot, je suis auteure de livres de cuisine et aussi de livres de remèdes de grand-mère avec un médecin qui s'appelle le docteur Henri Puget. Et j'ai fait ce livre « Amour, cuisine et volupté » avec une amie qui s'appelle Christiane Jean, qui est comédienne, comme moi, parce qu'au départ, je suis comédienne. C'est un métier qui nous laisse du temps, donc nous avons occupé notre temps à prendre du plaisir à faire tous ces volumes. Et nous nous sommes penchés sur les recettes aphrodisiaques avec beaucoup de plaisir.
Et il faut dire en fait que ce n'est pas qu'un livre de recettes. Vous avez savamment su doser en équilibrant entre culture et cuisine.
Oui, nous avons dans un premier temps cherché à trouver des poèmes érotiques qui avaient tous un trait à la cuisine en incluant le mot vin, épices, pain. Et on en a trouvé beaucoup et c'était très intéressant et c'était très joli. Et nous avons aussi cherché beaucoup d'anecdotes sur les aphrodisiaques. Pourquoi ces aphrodisiaques? Pourquoi ça fonctionnait? Quels étaient les ingrédients qui étaient à l'intérieur qui permettaient de considérer que c'était des aphrodisiaques? Alors c'est vrai que dans un livre de cuisine un petit peu ludique et glamour, le côté médical n'est pas très intéressant, mais on peut quand même, par exemple, citer que l'ail, qui est considéré comme un aphrodisiaque, l'est parce qu'il contient de la lysine qui est un vasodilatateur. Donc, ceci explique cela. Et c'est pour ça que nous pouvons considérer que tous ces produits sont aphrodisiaques.
Alors, le poivre est également un aphrodisiaque puissant. Il avait d'ailleurs une appellation très particulière.
Alors, il y a deux appellations. Une première appellation qu'on pourrait dire un petit peu vulgaire, qu'on appelle cricabit, et une autre un petit peu plus élégante qui s'appelle plaisir de Vénus.
C'est extraordinaire de se rendre compte que finalement, l'Église interdisait aux nonnes et aux prêtres de cultiver certaines plantes réputées aphrodisiaques. C'est le cas notamment de deux dont vous m'avez parlé. Donc d'abord, il y a la roquette et également la sarriette, me semble-t-il.
Tout à fait. Donc l'Église interdisait totalement aux moines de cultiver et aux nonnes de cultiver la roquette. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté de la roquette. C'est une salade absolument délicieuse qui a effectivement un petit goût poivré. Alors est-ce que c'est pour ça qu'ils considéraient que c'était un aphrodisiaque puissant? Et c'était totalement interdit aux moines.
Alors, on dit on peut avoir affaire à une belle en cuisse, mais une belle en cuisse de grenouille. Parce que la cuisse de grenouille est aphrodisiaque. Alors là, j'apprends quelque chose.
La cuisse de grenouille est aphrodisiaque, non pas parce qu'elle est grenouille, mais parce qu'elle mange de la mouche cantaride. Et la mouche cantaride est un puissant aphrodisiaque qu'ont utilisé notamment c'est Monsieur Casanova et le marquis de Sade dans leur partie fine, à tel point qu'un jour ils ont eu des soucis parce que en mettant dans du chocolat, ils ont eu des malaises et peut-être même, je crois, des morts, ce qui leur a valu à l'un la Bastille et à l'autre les prisons de plomb.
Les plombs de Venise.
Les plombs de Venise, voilà.
Alors, la mer offre aussi des nourritures aphrodisiaques. C'est le cas, les huîtres sont reconnues comme particulièrement aphrodisiaques. Et là, sur les huîtres, une petite anecdote à nous confier.
Oh, une petite histoire drôle. C'est une dame qui se plaint de l'indifférence de son mari, qui demande à son amie ce qu'elle pourrait faire. Elle lui dit, mais fais-lui manger des huîtres, c'est terriblement aphrodisiaque. Et quelques jours après, elle vient aux nouvelles. Elle lui dit, écoute, je sais pas, parce que je lui en ai fait manger une douzaine, mais il y en a que 9 qui ont marché. L'huître s'appelle aussi oreille de Vénus.
Ah,
en termes aphrodisiaques.
Il y a reproduit dans votre ouvrage des poèmes. Alors, vous avez puisé dans tous les siècles, hein, que ce soit le 16e avec ce qu'on appelle la Belle Cordière, Louise Labbé, ou des gens qui, comme François de Malherbe, sont connus plutôt dans le registre, effectivement, de l'éloge funéraire et qui, parfois, se laissent aller à des écrits libertins, coquins ou légèrement débauchés.
Oui. Alors, je peux vous en lire un. Donc, François de Malherbe, qui est plutôt connu pour ses adresses aux princesses mortes, s'est un jour commis à écrire un sonnet qui dit ceci. « Là, là, pour le dessert, troussez-moi cette cotte. Vite, chemise et tout, qu'il n'y demeure rien, qui me puisse empêcher de reconnaître bien du plus haut du nombril jusqu'au bas de la motte. »
Eh bien, dites donc.
Voilà, 1555, 1628.
Je n'aurais jamais soupçonné cela sous la plume de François de Malherbe. Page 11, je vais peut-être vous demander de nous le lire. Il y a le baiser de Paul Éluard, qui est aussi un texte puissant et révélateur, comme un aphrodisiaque d'ailleurs.
Oui, très beau. Très beau poème de Paul Éluard. Toute tiède encore du linge annulé, tu fermes les yeux et tu bouges. Comme bouge un chant qui naît vaguement, mais de partout. Odorante et savoureuse, tu dépasses sans te perdre les frontières de ton corps. Tu as enjambé le temps. Te voici, femme nouvelle, révélée à l'infini. C'est beau, hein, c'est magnifique.
Merci Régine. Alors, les vertus du céleri, connues déjà au XVIIIe siècle, la marquise de Pompadour l'utilisait en gratin pour garder le roi soleil auprès d'elle.
Pour faire craquer le roi. Et au Moyen-Âge, on disait si on connaissait les vertus du céleri, on en remplirait son coutil. Et même, certains disaient que si on savait, pareil, si on connaissait les vertus du céleri, on courrait de Paris à Rome pour en trouver.
Je suis très surpris d'apprendre, en feuilletant votre ouvrage, Régine, que la moutarde a des vertus aphrodisiaques.
Oui, la moutarde a des vertus aphrodisiaques. Au Moyen-Âge, on appelait ça mou ardent, M-O-U, accent circonflexe T. Et Georges Sand, qui en était grande consommatrice, disait, je ne rentre pas dans les détails que je ne connais pas, s'amuser à la moutarde.
Alors, il y a des femmes qui sont des dévoreuses d'hommes. Je pense à Catherine de Russie, qui notamment ingurgitait d'importantes quantités de caviar.
Oui, elle consommait du caviar et elle demandait à ce qu'on lui livre à la fois le caviar en même temps que son plus bel officier d'apparat. Elle en consommait, tous les jours.
Régine Tessot, l'artichaut. Alors, vous parlez des cris de Paris. J'aimerais que vous rappeliez un peu ce qu'on appelle les cris de Paris et que vous nous parliez de l'artichaut. C'est page 36 d'ailleurs, mais vous le connaissez peut-être par cœur.
Alors, c'était dans les petites charrettes qui passaient dans Paris avec des légumes et tout. Et il y avait les gens qui criaient à une époque. Il y avait les aiguiseurs, je ne sais pas comment on disait, de couteaux et ceux qui vendaient des vitres. Et puis, il y avait les gens qui vendaient des petits légumes et qui criaient. Artichaut, c'est pour monsieur, c'est pour madame, c'est pour tenir le cul au chaud.
Alors Pierre-Louis, que l'on connaît pour la chanson de Bilitis, a aussi écrit quelque chose d'absolument formidable sur l'asperge qui a des réputations. Enfin, évidemment, elle a une forme très phallique, l'asperge, c'est évident.
L'asperge, oui, effectivement. Mais
c'est page 34, donc, page dans 34. Votre
donc,
ouvrage,
Régine Tessot. Ne faites pas aller et venir une asperge dans votre bouche en regardant languissamment le jeune homme que vous voulez séduire.
Et vous aussi, avec votre camarade d'écriture, vous avez inventé deux maximes, deux proverbes.
Oui, nous avons inventé deux proverbes. Donc le premier, c'est « Mieux vaut une grosse gourmande qu'une maigre picoreuse » et « Chipote à table, chipote au lit ».
Alors les boissons sont aussi réputées aphrodisiaques. Alors, peut-être que la plus efficace, c'est la coupe de champagne à la liqueur de rose.
Oui, c'est absolument délicieux. Et C'est vrai que c'est un explosif, c'est un mélange. On dit que certains produits dégagent des endorphines. Là, ça doit produire je ne sais quel produit qui fait que c'est extrêmement, extrêmement aphrodisiaque et totalement délicieux en plus.
Alors, peut-être moins délicieux, mais tout aussi efficace pour un homme qui connaîtrait une grosse fatigue, notamment sexuelle, c'est le jaune d'œuf dans un verre de bière brune. Tout de même, il faut avoir
alors là,
le cœur bien accroché.
Oui, alors là, il faut être vraiment très fatigué. Bon, mais bon, il y a des choses peut-être plus sympathiques. Mais alors, on dit que, par exemple, on dit que le champagne a trois vertus. Le champagne est aussi un excellent somnifère. Et on dit un verre de champagne dans les bras de Morphée, deux verres dans les bras de ton amoureux. Voilà.
Alors, il y a le jus de chou aussi qui est recommandé.
Le jus de chou...
Pour tonifier un petit peu les messieurs déficients.
Oui, mais enfin bon, ça c'est...
C'est qu'il y a les boissons d'avant l'amour et les boissons d'après
voilà,
l'amour.
Voilà, les boissons d'après l'amour, c'est bon. C'est effectivement après une grosse fatigue. Je reviens sur les apéritifs. Nous avons donc le champagne à la liqueur de rose, le filtre des amandes débridées, mais bon, qui est du vin macéré avec du vin de Cahors, macéré avec des kiwis, du sucre, des racines de gingembre, une orange coupée en quartier, du piment d'Espelette, des graines de coriandre, c'est très élaboré, du miel de romarin pardon, et un petit verre de whisky et 10 clous de girofle. C'est très très élaboré. Vous avez aussi le punch aphrodisiaque antillais avec de la citronnelle, du citron vert, de la cannelle en poudre, de l'anis étoilé, tout ça dans du rhum avec 3/4 de litre de miel. Et après, donc nous avons les après qui sont le fameux secret du Cosaque. Donc du poivre de Cayenne ajouté à de la vodka, des graines d'aneth, des feuilles de basilic et une branche de thym frais. Voilà. On peut aussi faire macérer une gousse de vanille coupée en deux dans 13 graines de coriandre, 3 clous de girofle, 1 litre de vodka pendant un mois. C'est-à-dire qu'il faut anticiper.
Bon, c'est formidable toutes voilà. Les recettes que vous nous offrez. Alors un petit mot tout de même sur le glossaire que vous avez créé avec amusement avec votre camarade d'écriture.
Voilà.
Donc vous répertoriez alphabétiquement, bien sûr, c'est le principe du glossaire, des verbes qui sont utilisés en cuisine, hein, qui constituent des actions d'une cuisinière comme châtrer, déglacer, dresser, équeuter, etc., etc. Et vous les déclinez, donc version cuisine et version chambre.
Voilà, nous nous sommes beaucoup amusés à n'utiliser vraiment que des termes de cuisine. Par exemple, dessaler, donc en cuisine, ça veut dire éliminer en partie ou totalement le sel contenu dans certains aliments. En chambre, nous allons dire éliminer en partie ou totalement les inhibitions contenues dans certains corps. Voilà.
Déglacer, par exemple, est pas mal.
Ah, déglacer, alors en cuisine, faire dissoudre à l'aide d'un liquide les sucres contenus dans un récipient ayant servi à une cuisson afin de confectionner un jus. Et en chambre, faire dissoudre à l'aide de salive la timidité contenue dans un amoureux afin d'en exprimer tous les sucs.
Mais voilà un bel ouvrage à lire cet été pour se cultiver, redécouvrir des textes poétiques, de très belles photographies et puis des idées de recettes que l'on peut vraiment réaliser.
Et bien manger, et bien manger parce qu'elles sont toutes délicieuses et toutes réalisables.
Régine Tessot, à l'instant enregistrée le 17 juin dernier à l'Orangerie du Château d'Ancy-le-Franc dans le Tonnerrois pour évoquer son ouvrage 140 recettes aphrodisiaques, amour, cuisine et volupté disponible aux éditions Erol. Nouvelle petite pause musicale à bord de Wagon Livre. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Nous revenons dans quelques minutes.
Mon cher ami, mon cher amour, tu es entré dans ma vie, m'as prise de court, tu m'as donné l'envie de croire à l'amour. J'ai oublié ce qu'était l'ennui avec tes mots de velours. des promesses qui m'obsèdent nuit et jour. Je veux me réveiller chaque matin, ton corps blotti contre le mien. Je veux mon cœur dans tes deux mains pour qu'il batte avec le tien. Tu n'es pas là, mon sourire s'assombrit. Même si souvent tu me mens, amour, amant et ennemi, toujours contre toi, je m'oublie. Je veux me réveiller chaque matin, ton corps blotti contre le mien. Je veux mon cœur dans tes deux mains pour qu'il batte avec le tien.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Place cette fois-ci à l'histoire avec un roman historique signé de Jean-François Zimmermann que nous avons rencontré au deuxième salon du livre d'auteur organisé par le Lions Club Centre-Est, c'était le 17 juin dernier au château d'Ancilfranc dans le Tonnerrois. Jean-François Zimmermann, effectivement, a fait paraître récemment aux éditions de Boré un roman historique, Rendez-vous au Pré au Clair, un roman qui revient sur un épisode de la fronde, fronde populaire et fronde parlementaire à la fin du XVIIe siècle. Sans plus tarder, Jean-François Zimmermann.
Alors, je suis donc écrivain spécialisé dans le roman historique et ultra spécialisé dans le XVIIe siècle.
Le grand siècle, comme on l'appelle.
Oui, le grand siècle, parce que l'on fait allusion forcément à Louis XIV, mais c'est un siècle qui a tout de même connu trois rois. Henri IV, Louis XIII et Louis XIV.
Louis XIV, dont le règne va de 1661 jusqu'à sa mort 1715, hein, plus de 50 ans de règne. Qu'est-ce qui vous attache autant à ce XVIIe siècle ? C'est la partie politique, la partie intellectuelle, culturelle, le rayonnement de la France, quand même, qui est un pays presque dominant à cette époque dans l'Europe du XVIIe siècle, soyons bien d'accord.
Eh bien, je vais faire un tout petit retour en arrière. Le premier roman que j'avais écrit était un roman de l'époque médiévale. Et j'ai eu beaucoup de mal à rédiger parce que je voulais être le plus proche possible de la réalité du vocabulaire. Mais évidemment, il n'était pas question d'écrire dans la langue de l'époque parce que d'abord, elle n'existait pas encore. Et cela m'a donné beaucoup de difficultés parce qu'il me fallait accorder infiniment de licences de vocabulaire et d'expression. Donc je me suis dit je ne vais pas recommencer et je vais essayer plutôt de choisir une époque où je pourrais utiliser ma langue, c'est-à-dire celle de l'époque, celle d'aujourd'hui en fait. Alors une époque qui m'a particulièrement donc intéressé, c'est le 17e. Dieu sait si la langue française, si l'expression même écrite de la langue française était absolument magnifique à cette époque. Je pense qu'on n'a jamais atteint le même niveau d'expression écrite, d'ailleurs. Alors, c'est le moment où on a commencé à fixer la langue.
Oui, l'Académie française qui fixe à la fois la grammaire et l'orthographe.
Voilà. Et il y a eu également la production du premier grand dictionnaire encyclopédique, celui d'Antoine Furtière en 90. Et alors, 1690, je précise quand même. Et alors, ça m'a permis d'avoir un juge, d'avoir un arbitre. Donc, ça m'a permis de pouvoir travailler la langue, travailler donc le style et la langue en ne créant aucun anachronisme, ni de vocabulaire, ni d'expression. Et cela me paraît être la première des politesses que l'on doit rendre au lecteur si on veut véritablement situer une action historique dans sa langue.
Alors justement, Jean-François Zimmermann, se plonger dans un roman historique, c'est forcément s'imposer des contraintes quand on est pourtant le créateur et qu'on fait vivre des personnages de papier dans le contexte historique. Il faut être extrêmement prudent.
Oui, il y a des règles effectivement à respecter, des règles que l'on peut et que l'on doit s'imposer. Je suis un grand admirateur de Marguerite Yourcenar, qui est bien entendu une auteure de romans historiques.
Les Mémoires d'Adrien.
Les Mémoires d'Adrien, L'œuvre au noir, romans qui sont infiniment travaillés. Et Marguerite Yourcenar disait, pour qu'un roman historique soit réussi, il importe avant tout que l'histoire, lorsque l'on lit ce roman, on n'ait pas l'impression de se rendre à un bal costumé. Voilà. Et je trouve que cette phrase est très 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 bonne. Et j'en ai fait véritablement ma phrase de chevet, si je puis dire, comme on dit.
C'est votre devise d'écriture.
Ma devise d'écriture. Voilà.
Alors parlons justement donc de votre dernier roman. Vous m'avez dit, c'est le cinquième.
Sixième.
Le sixième roman, aux éditions de Boré, qui a pour titre « Rendez-vous au Pré-au-Clair ». Alors, vous nous conduisez dans une époque bien précise, c'est l'épisode de la Fronde, sur fond de Fronde. Est-ce que je peux vous demander de rappeler ce qu'est la Fronde ?
Eh bien, la Fronde, c'est une grande révolte avant tout populaire. Avant tout populaire, qui a été bien entendu récupérée par les nobles, récupérée aussi par le Parlement et par les bourgeois également. Ils avaient tous des intérêts différents, ce qui explique que ça, c'était vraiment très très compliqué. Pourquoi cette révolte ? Tout simplement parce que le peuple était à bout, complètement grevé d'impôts, il n'en pouvait plus, affamé, et donc il suffisait d'une petite étincelle pour que tout cela puisse exploser. Elle a été rendue possible également par la vacance du pouvoir, puisque Louis XIV n'était pas encore en âge de régner. Il y avait donc une régence qui était assurée par Anne d'Autriche. Et ces périodes de régence dans l'histoire ont toujours été des périodes troubles où tout pouvait être possible.
Alors, quelle est l'intrigue de votre roman, dont je rappelle le titre, « Rendez-vous au Pré-au-Clair » aux éditions de Boré ?
Alors, l'intrigue est la suivante. Dans un petit village bourguignon, dans une famille de petite noblesse, les deux Courcelles, va naître un enfant. Alors on peut imaginer la scène, il y a la chambre de Gésine, et dans cette chambre de Gésine, il y a donc la comtesse qui va accoucher. Dans cette chambre, il y a très peu de monde, il y a simplement le chirurgien, et puis il y a également une femme de chambre, et puis c'est à peu près tout. Et dans l'antichambre, il y a le comte qui attend, et puis quelques personnes, quelques proches, et puis quelques villageois qui ont le droit exceptionnellement d'assister, entre guillemets, à cet accouchement. L'enfant va naître, mais il va se passer des choses étranges dans cette chambre. On va entendre des bruits de cavalcade, il va y avoir des gens qui viennent. Enfin, je ne veux pas en révéler davantage si jamais il y avait des lecteurs qui voulaient lire ce livre. Mais là, le livre démarre véritablement à ce moment-là, Il y a un enfant qui naît, puis une heure après, il y en a un autre qui est arrivé, presque par miracle. Alors, on se pose quand même beaucoup, beaucoup de questions sur la réalité de la gémellité des deux enfants qui viennent de l'être. Tout part de là, et puis ensuite, le roman va se développe. Et on va se retrouver au moment de la fronde, entre ces deux frères, entre guillemets, qui vont s'affronter parce qu'il y en a un qui va être du côté des frondeurs et puis l'autre qui sera du côté de...
Fidèle au pouvoir royal.
Fidèle au pouvoir royal, voilà.
Alors, qu'est-ce que le Pré au Clair ?
Le Pré au Clair est un endroit donc à la sortie de Paris où les duellistes avaient coutume de se rencontrer pour régler leurs différends sur le pré, justement. Et cet endroit était également fréquenté par des couples illégitimes de la haute société, bien sûr. À cette époque, les mousquetaires, normalement, devaient traquer les duellistes, justement, puisque le duel était interdit depuis Richelieu. Mais ils ne se rendaient pas dans ce pré parce qu'ils avaient peur de se trouver nez à nez avec précisément ces couples illégitimes. Cela aurait créé quand même quelques troubles.
Alors, est-ce que je peux vous demander de nous offrir la lecture d'un extrait de ce roman,
oui,
nouveau roman historique, donc aux éditions de Boré, intitulé « Rendez-vous au Pré au Clair » sous la plume de Jean-François Zimmermann.
Alors, je vais vous lire un petit extrait d'une lettre, en fait. Une lettre qui est adressée à une dame de la haute société qui est adressée par François, qui est d'un des frères, entre guillemets, qui va se retrouver donc à se battre contre son frère cadet, au Pré au Clair justement. Et la veille de cet affrontement, il va écrire une lettre. Tout au long du roman, une partie de cette lettre est distillée pour justement poser des questions. Et on se demande tout au long du roman à qui est adressée cette lettre. Et on sait que c'est extrêmement important, évidemment. Et on ne le saura, bien sûr, qu'à la fin. Voilà, alors je vais vous lire un petit extrait donc, de cette lettre qui intervient à un certain moment. Voilà. Donc c'est François qui écrit. « Je vous admire, madame. » Et je vous ai toujours été fidèle. Vous savez punir autant que pardonner à vos ennemis. La fierté dont vous avez toujours fait preuve vous honore. L'amour que vous portez à vos enfants vous aide à vaincre toutes les traverses dont a été encombré votre chemin. Vous leur êtes toutes dévouées et ne vivez que pour et par eux. Vous avez su leur transmettre le respect et l'amour de Dieu qui devra les guider leur vie durant, car les responsabilités qui les attendent et les décisions parfois difficiles qu'il leur faudra prendre ne pourront l'être sans son aide. Je craignais, pour votre vie durant cette longue période troublée désignée par cette étrange expression, la fronde. Après qu'ils eurent porté en triomphe leur héros sénile et caduc, le conseiller Broussel, jusqu'à Notre-Dame, les frondeurs démontèrent leur barricade et Paris retrouva son calme. Monsieur Jean-François Paul de Gondi, futur cardinal de Retz, grâce à la faiblesse ou au calcul de Monseigneur, qui céda à ses demandes ambitieuses visant à faire virer sa robe du violet au pourpre, se rendit à la cour pour parader et se vanter d'avoir obtenu la reddition des insurgés. Il tentait de faire accroire au ministre qu'il était le seul à pouvoir dialoguer à la fois avec les parlementaires, les bourgeois et la populace, car ils s'estimaient autant aimés des uns que des autres. Le cardinal fit mine de le féliciter de cette réussite, mais il se méfiait de lui, de sa faconde et de sa dissimulation. Je savais comment, les mois précédant cette fronde, le coadjuteur avait procédé pour obtenir l'adhésion du petit peuple. Mes mouches m'avait fait part des dons de plusieurs milliers d'écus qu'il avait octroyés au petit curé des paroisses de l'archevêché pour que, lors de leur sermon, ils le louangent. D'apercevoir mon frère à la tête des insurgés et surtout le signe qu'il échangea avec M. de Gondi lors de la charge du maréchal de la Meilleraie, me surprit dans un premier temps et m'emplit de fureur contre lui dans un deuxième temps. J'étais abasourdi de voir qu'il avait choisi le mauvais camp. Et là, il parlait donc de son frère.
C'était Jean-François Zimmermann pour évoquer son dernier roman, un roman historique intitulé « Rendez-vous au Pré au Clair », un roman que vous pouvez bien évidemment vous procurer pour l'été en librairie, un livre disponible aux éditions de Boré. Rendez-vous au Pré au Clair. Rendez-vous en tout cas pour nous dans une poignée de minutes. Dernier intermède musical à bord de Wagon Livre. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Juste après, nous ferons connaissance avec Laurence Gault, également rencontrée lors du deuxième salon du livre d'auteur. C'était, je le rappelle, le 17 juin dernier à l'orangerie du château d'Ancy-le-Franc. Un événement culturel qui a permis aux auteurs de se rencontrer et au public de venir bavarder avec les auteurs, un événement organisé par le Lions Club Centre-Est. Et je voudrais saluer Cyril Lefebvre, libraire à Semur en Auxois, qui a été, je crois, particulièrement actif pour l'organisation et la bonne tenue de cette belle manifestation. Bonne soirée.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Dernier reportage proposé ce soir à l'occasion du compte-rendu du deuxième salon du livre d'auteur organisé par le Lions Club Centre-Est. C'était au château d'Ancy-le-Franc le 17 juin dernier. Nous allons terminer cette émission avec Laurence Gault, dijonnaise, qui est l'auteur de plusieurs romans, des romans pour le jeune public, mais également des romans pour les adultes. On mentionnera notamment « Mort au crabe » aux éditions « Temps impossible », un roman sur un sujet grave, la maladie, et notamment le cancer. Tout de suite, Laurence Gault.
Je suis originaire de Dijon et je vis à Dijon depuis de nombreuses années. Je suis professeure d'anglais en collège depuis 36 ans. Et je me suis mise à écrire il y a 9-10 ans parce que j'ai eu un gros souci de santé. Il a fallu que je reste chez moi pendant un bon moment et rester sans rien faire, c'était pas possible. Donc je me suis lancée dans l'écriture.
Alors nous reparlerons du souci de santé puisqu'il y a un témoignage écrit dont on parlera au cours de cet entretien. D'ailleurs, un recueil de textes, « La fleur du mal », mais la version féminine existe et qui a pour titre « Dites-le avec des fleurs ». Et le sous-titre, Laurence, c'est
« La tulipe est une salope ».
Mon Dieu, tout un programme, on en parlera sans doute. En tout cas, chez Rhubarbe, a paru « La fleur du mal ».
Hein, oui.
Beau clin d'œil, bien sûr. On joue et on jongle avec les mots. Et la quatrième de couverture nous dit qu'elle n'a pas sa langue dans sa poche, ni les deux pieds dans le même sabot. Laurence Gault aime écrire en s'amusant.
Oui,
c'est
essentiellement
que vous concevez
oui.
L'écriture, s'amuser.
Absolument, absolument.
Alors, Laurence, on a dit l'écriture a commencé avec chez Eddy Livre,
oui.
Avec une trilogie, Le trou sans fond, La galerie des brumes et L'île du bout du bois. Un petit mot sur ces trois romans qui s'adressent à un public plutôt jeune.
Qui s'adressent à des ados collège. Hein, cinquième, c'est parfait. Sixième, cinquième. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Adèle, qui a un chien qui s'appelle Rufus et qui désobéit à sa mère et tombe dans le gouffre qui se trouve dans une forêt et qui existe réellement. Et les spéléos n'ont jamais pu descendre. Donc elle découvre au fond du gouffre un monde parallèle où le peuple des phalènes a des gros gros soucis avec un prof de sciences physiques épouvantable qui veut les réduire en esclavage. Donc Adèle va se venger, aider ses amis et se débarrasser du prof.
Alors si vous entendez un peu de bruit autour de nous, il faut dire que c'est l'extrême fin du salon. Donc il y a déménagement de tables, de chaises. Les auteurs sont en train de partir. Hein. On entend une valise dont les roues crissent dans les gravillon de la cour des écuries du château d'Ancy-le-Franc et je suis en train de finir le salon avec Laurence Gault qui nous accompagne et je l'en remercie. Alors Laurence, en 2014, Les Enfants de la Foudre, sous prétexte d'une fiction, c'est une volonté, peut-être en tant que maman et enseignante, de dénoncer les dangers de l'Internet.
Absolument. Absolument, parce que dans le roman, donc, un virus informatique se donne aux humains et les transforment en statues à partir du moment où ils arrivent à maturité complète. Donc sur le coup des 20 ans, eh bien, tous les gens sont statufiés. Donc les enfants, les ados, les stockent dans des gymnases et essaient de survivre, de trouver un moyen de se nourrir, de revivre en société. C'est pas du gâteau.
Au passage, Laurence Gault, l'interdiction du téléphone portable à l'école et au collège.
Ça va être très difficile. Je serais plutôt pour, mais ça va être très difficile.
Pourquoi donc ?
Parce que comment fouiller tous les élèves à l'entrée des collèges pour vérifier qu'il n'est pas de portable ? Et puis d'un autre côté, en tant que maman, je trouve que c'est rassurant parfois qu'un enfant qui habite loin puisse avoir un téléphone pour appeler au secours ou pour prévenir s'il rentre tard. C'est aussi un bon moyen. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas apprendre à nos enfants à s'en servir correctement.
Ça, c'est, il y a une frénésie, hein, effectivement, autour du téléphone portable. Alors, sujet beaucoup plus grave, Laurence Gault, en octobre 2017, aux éditions Temps Impossible, vous avez fait paraître un ouvrage qui est très court d'ailleurs, « Mort au crabe ».
Oui.
Le crabe, c'est pour ne pas utiliser ce terrible mot
absolument,
que nous connaissons un peu trop malheureusement et qui touche beaucoup de gens, hein, mort au cancer. Vous avez donc vous-même connu cette épreuve de la maladie et vous en rendez compte dans « Mort au crabe », mais alors avec un ton bien spécifique. Et
j'ai essayé de faire quelque chose de drôle, quelque chose pour dédramatiser un petit peu la chose, pour que les gens qui démarrent une aventure pareille puissent lire ce livre et se rendre compte que on peut se retrouver dans des situations drôles.
Alors Laurence, peut-être que je vais vous demander de nous lire un extrait de Mort au crabe pour vérifier que l'humour peut venir parfois s'immiscer dans les moments les plus angoissants tout de même de son existence.
Oui, je vais vous en lire deux petits passages courts. Un premier passage qui se passe au moment où on fait une ponction dans la boule maligne et où on vous annonce que c'est grave et qu'il va falloir faire quelque chose. À chaque ponction, l'appareil a un bruit sec de gâchette de colt qui claque à vide. L'examen se fait sous échographie et le petit bitonio enquêteur suit sa course endiablée sur la façade est de mon sein malmené. Le docte préleveur, qui doit sans doute avoir vu des centaines de tumeurs malignes sur son écran d'échographie, ne tergiverse pas. Vu mon expérience, vu l'apparence de ma boule intrusive, il vaut mieux que je passe directement par la case chirurgien. À l'œil nu, le praticien a détecté que ce n'est pas bon. Pas la peine d'attendre les résultats, ne pas perdre de temps. Il me dit cela avec un gentil sourire, la tête légèrement penchée sur le côté. Après ce nouveau coup sur la calebasse, mon optimisme légendaire commence à prendre l'eau. Moi qui essaie toujours de minimiser les choses graves et qui recule résolument le moment où il faut envisager le pire, je suis servi. Mais enfin, je résiste encore. Si ça n'est effectivement pas bon, ce n'est peut-être pas si mauvais.
Alors, autre extrait, merci Laurence Gault, autre extrait donc de Mort au crabe, disponible aux éditions Temps Impossible.
Alors l'autre extrait, c'est juste après ce qu'on appelle le PET scan. C'est un examen qui vérifie que les petites cellules cancéreuses ne se baladent pas à droite à gauche dans l'organisme. Donc PET scan, injection du produit radioactif que les infirmières manipulent avec la plus grande précaution et avec des gants matelassés dans des bouteilles thermos métalliques à triple paroi. Rappel, en situation post-picouse, les patients sont invités à tirer la chasse deux fois après usage des toilettes pour ne pas éclabousser au large. En pissant, ça pourrait bousiller le carrelage et de ne pas approcher les enfants en bas âge avant plusieurs heures, sous peine de les rendre phosphorescents. Examen passé et réussi. Oh, c'est mieux que d'avoir son bac. Pas de métastase. Aucune cellule cancéreuse dissidente ne se balade dans l'organisme. Ouf, enfin une nouvelle, qu'elle est bonne.
Merci Laurence. Ça vous a reconstruit un petit peu d'écrire après la maladie ? Alors, la question fait un peu poncif, les genres d'écriture thérapeutique qui permettent
oui,
de se reconstruire.
Oui, sauf que je l'écris en même temps.
Ou de réparer le vivant.
Oui, je l'ai écrit en même temps. Hein. Au fur et à mesure, je tenais un petit journal pour raconter sur le vif, sur le chaud, ce que je venais de ressentir.
Hein. C'est salvateur ?
Ça aide. Ça, c'est sûr que ça aide. Et puis, ça permet de rire, de prendre du recul.
Laurence, vous vous êtes donné à un art bien spécifique, c'est que vous vous êtes donné à la sculpture, à la tronçonneuse,
oui, ça, diantre. ça amuse toujours. Les messieurs surtout sont souvent très étonnés. Oh, une femme qui manipule une tronçonneuse. Oui, je sculpte les arbres sur pied. On les coupe à 1m20, 1m40 et je sculpte dans l'arbre encore planté, ce qui fait qu'il continue à pousser. Et comme je fais essentiellement des rapaces, ils se retrouvent très souvent bien nichés au creux de branches avec des feuilles. qui repousse.
Formidable. Voilà. Je serais curieux de découvrir cet art.
Eh ben, faudra venir me rendre visite.
Laurence, il y a aussi un recueil, Contes ténus.
Oui.
C'est chez Edit Livre. Là, vous dites que vous tapez un peu sur l'éducation nationale et pourtant vous en faites partie.
Oui, je tape un peu sur l'éducation
nationale. Vous crachez dans la soupe.
Non, je ne crache pas dans la soupe. Je pense qu'il pourrait y avoir des gros progrès, effectivement, et qu'on n'aura rien, on n'aura pas de progression possible tant qu'on aura autant d'élèves par classe. Déjà, c'est une chose que je critique énormément. Le nombre fait qu'on ne peut pas faire certainement correctement jusqu'au bout ce qu'on doit faire avec les enfants.
Laurence, vous avez des classes de collège ?
Oui.
Quel est l'effectif de
33.
C'est beaucoup.
Oui, c'est beaucoup trop. Alors donc, dans ce recueil de nouvelles, je me suis amusée. C'est la première nouvelle. Hein. Je n'ai pas fait toutes les nouvelles sur ce sujet-là. Mais dans la première, je me suis amusée à faire en sorte que ce soit les élèves qui prennent en charge l'organisation pratique de leur école. Voilà. Donc, ils prennent en otage les profs.
Un vieux fantasme.
Mais je ne raconte pas la suite.
Un vieux fantasme.
Oui, j'aurais pu le faire quand j'avais leur âge.
On parle bien sûr beaucoup d'éducation nationale, on parle beaucoup de baisse du niveau, on est inquiet du niveau même de français. Oh, vous le vérifiez ou pas ?
Non. Non, moi je suis pas d'accord avec ça. La différence qu'on a avec avant, parce que c'était toujours mieux avant, vous savez, la différence qu'on a avec avant, c'est que maintenant on a affaire à un public qui est déjà beaucoup plus large. Hein, à l'entrée en sixième, tous les élèves entrent en sixième, pratiquement. Hein, et je ne suis pas d'accord pour le niveau. On a des enfants qui ont une autre forme d'intelligence, qui ont d'autres connaissances que nous n'avions, nous, éventuellement, à leur âge.
Néanmoins, on sait que le budget de l'éducation nationale est élevé et parfois les résultats sont un peu maigres.
Mais
au
il est
regard
pas,
du coût.
À mon avis, il n'est pas assez élevé. Il faut mettre plus de profs, il faut mettre moins d'élèves par classe. Ça, je suis... Et peut-être organiser autrement les choses. Faire beaucoup plus de matières avec des options, enfin en options. Faire un tronc commun de matières obligatoires et faire beaucoup de matières en options sur un trimestre seulement.
Bon,
voilà, votez pour moi comme ministre d'Éducation nationale.
Voilà, un auteur fougueux, talentueux et une femme militante et engagée un peu.
Engagée, oui. Par rapport à mon métier, que j'aime beaucoup, oui.
C'était Laurence Gault que nous avons rencontrée le 17 juin dernier lors du deuxième salon du livre d'auteur organisé par le Lions Club Centre-Est. Si vous n'avez pas eu le temps de noter les références des ouvrages dont il a été question, il y a un moyen très simple et très efficace de retrouver les titres des livres évoqués, c'est de vous rendre sur le site d'archives de Wagon Livre www.yannickpetit.fr. La semaine prochaine, mercredi 11 juillet, toujours à 21h sur Radion, je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie du compte-rendu de ce deuxième salon du livre d'auteur organisé par le Lions Club Centre-Est. Je vous proposerai notamment un reportage avec Raphaël Vinteuil qui signe des recueils de nouvelles sur le château d'Ancy-le-Franc. Alors le premier recueil avait pour titre « Trois oies, deux marquises, un roi ». Et puis, deux autres recueils se sont ajoutés. Notons « Le clan des lézards » et « Vent de folie », des récits qui associent histoire et fiction, mais des récits qui entourent l'histoire de ce château Renaissance dans le Tonnerrois, le château d'Ancy-le-Franc. Et puis, nous aurons également le plaisir de vous proposer un entretien avec Denis Grosdanovic, qui était présent, lui aussi, à ce deuxième salon du livre du Lions Club au château d'Ancy-le-Franc. Denis Grosdanovic, qui a fait récemment paraître un essai aux éditions Grasset, intitulé « Le génie de la bêtise », très bel oxymore que vous aurez relevé au passage. Denis Grosdanovic, qui est un ancien champion de tennis, de squash et de courte paume, et qui s'est reconverti dans la philosophie, les échecs et la littérature. En tout cas, c'est au programme de Wagon Livre, mercredi 11 juillet prochain. Ce sera d'ailleurs la dernière émission de la saison, puisque nous allons nous aussi prendre des vacances à l'ombre pour continuer de lire, pour continuer de découvrir des livres et vous les faire partager dès la rentrée de votre émission littéraire, rentrée qui aura lieu au tout début du mois de septembre. Très bonne fin de soirée à toutes et à tous. Merci d'avoir été avec nous. Merci de votre écoute et de votre fidélité. Au revoir et à la semaine prochaine.